Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Il vous est présenté par Nanit Talani. Les femmes enceintes qui développent la pré-éclampsie sont aussi susceptibles d'être victimes de l'éclampsie. Celle-ci se manifeste par l'apparition d'une crise convulsive généralisée dans un contexte d'hypertension gravidique pendant la grossesse ou pendant la période postpartum. L'éclampsie survient donc habituellement comme l'une des redoutables complications majeures de la pré-éclampsie. C'est une urgence vitale pour la mère et l'enfant à naître, car elle peut inclure des convulsions ou un coma. En Afrique, l'éclampsie survient chez plus de 16% des femmes pré-éclamptiques. Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les femmes les plus à risque? Quelles peuvent être les mesures préventives pour les grossesses suivantes concernant les femmes qui ont déjà développé une éclampsie? Quelles sont les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et le bébé?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Elle peut faire un AVC, des délires, une rupture capsulaire, du foie. Elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie, va être cérébrale. Donc, elle peut même mourir. Sur le bébé, là, c'est la mort fœtale intra-utérine.
Pour répondre à ces questions et à celles que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique, nous recevons au cours de notre programme Votre Santé, Votre Avenir, le docteur Maurice Soubou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Vous suivrez en seconde partie de ce programme Carnet de Santé avec Minor Moudou.
Votre Santé, Votre Avenir, l'invité de la semaine.
Voici, chères auditrices et chers auditeurs, le moment de suivre notre interview avec le docteur Maurice Soubou. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour Manique.
Bien, merci d'accepter de répondre à nos questions concernant l'éclampsie. Nous allons démarrer avec cette question de deux de nos auditeurs, Noël Garcive le Meilleur et Baron Jamal Laurent. Les deux veulent savoir qu'est-ce qui provoque l'éclampsie chez la femme enceinte.
Pour arriver à ce qui provoque l'éclampsie, je commence d'abord par vous dire ce qu'est l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une complication de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie que nous avons définie la fois passée comme étant une association d'une hypertension artérielle où on a le chiffre tensionnel supérieur à la systolique supérieure à 140 et la diastolique supérieure à 80, avec une protéinurie supérieure à 3 grammes par jour et de l'apparition des édèmes. Donc, c'est tout à fait triade qu'on définit la pré-éclampsie. Mais dans certaines sociétés savantes, il y a juste certains éléments spécifiques dont on avait parlé. Alors, cette pré-éclampsie, que c'est compliqué à une éclampsie? Une éclampsie, c'est quoi? C'est quand une personne fait une pré-éclampsie et que ça survient l'apparition de convulsions. Donc, chez une pré-éclampsie, quand elle convulse, c'est ça l'éclampsie.
Ok, mais docteur Morin, comment survient-elle?
Ça survient comment? On a dit la fois passée pour la pré-éclampsie qu'il y avait une hypertension. Cette hypertension est due à quoi? Il y a des enzymes comme la prostacycline qui est une enzyme de vasodilatation avec une thromboxane A2 qui est une enzyme vasoconstrictive. Alors, dans des grossesses normales, il y a un équilibre de ces deux enzymes. Maintenant, en cas de pré-éclampsie, il y a un déséquilibre. Il y a plus de thromboxane A2 que de prostacycline. Alors, le thromboxane entraîne une agrégation plaquettaire au niveau du vaisseau artériel. Alors, cette agrégation-là, c'est à fait qu'il y ait une hypoperfusion. Donc, le cerveau, tout comme on parlait de placenta maternel, sera hypoperfusé.
Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, docteur?
Alors, dès que le cerveau est hypoperfusé, ça tombe dans un état d'anoxie cérébrale. Il y a donc absence d'oxygène au niveau du cerveau. Comme ça, le corps réagit en convulsant.
Est-ce qu'une femme qui n'a pas fait de pré-éclampsie peut quand même développer une éclampsie?
Non. Chez une femme qui n'a pas fait la pré-éclampsie, ne peut faire une éclampsie. Une éclampsie, c'est une des complications phares de la pré-éclampsie. Ça ne concerne que les femmes enceintes, puisque c'est une maladie du placenta. Je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un défaut de vascularisation des artérioles spiralées au niveau du placenta. Donc la seconde invasion, là, c'est défaut. Comme ça que le placenta est hypoperfusé. Cette hypoperfusion placentaire, or le placenta, c'est l'organe d'échange maternel et fœtal, ça fait que ça libère les enzymes dont je viens de parler, qui sont de responsables de toutes les conséquences.
D'accord. Est-ce que parmi vos patientes, il y en a qui développent ou qui ont développé l'éclampsie?
Oui, il y a toujours des patientes qui développent l'éclampsie. Comme nous avions dit, le patient qui ne vient souvent pas au CPN, aux consultations prénatales, puisque avant d'arriver à cette éclampsie-là, il y a des prodromes, quelques signes qui annoncent l'éclampsie, avant que la femme commence à convulser. Donc, elle vient vous dire, ou lors d'une consultation, vous voyez que la personne a des flous visuels, une diplopie, une vision double, des acouphènes, ou qu'elle ait une épigastralgie en barre. Avec ces signes-là, ça vient juste quelques jours avant l'apparition de convulsions.
Que faites-vous en ce moment-là?
Alors, quand une dame vous vient comme ça, vous savez prévenir. Vous lui donnez le sulfate de magnésie qui prévient l'arrivée de convulsions. Alors, une femme qui ne fait pas de CPN, et puis vu que ce n'est pas vulgarisé, quand elle fait une pré-éclampsie et qu'elle ne vient pas à l'hôpital, elle va faire certainement une éclampsie. On en a eu des cas, et plusieurs cas, nous pouvons dire, qui viennent de milliers un peu ruraux. Les dames qui ne connaissent pas de CPN, quand elle fait par exemple une éclampsie, elle est en train de convulser ou elle a une vision double pendant la grossesse, elle développe ces prodromes-là. Vu qu'elle vit dans un milieu rural, on est en train de diaboliser ça. On dit que non, c'est une maladie, c'est un sort qu'on lui a jeté ou quoi. C'est que ça se passe dans les milieux ruraux. Alors quand on vous amène ces gens des dames, elle vous vient dans un tableau tonico-clonique avec des fortes convulsions où elle est même déjà entrée dans la dernière phase, là, la phase 4, la phase des comas, et pour la récupérer, c'est un peu difficile. On en a eu des cas comme ça, de dames qui ne sont pas compliantes au CPN, aux consultations prénatales, ou au traitement qu'on leur donne de la pré-éclampsie. Quand vous ne suivez pas bien ces traitements, vous risquez de tomber dans cette complication.
D'accord. En dehors des convulsions, y a-t-il d'autres signes qui peuvent caractériser une éclampsie?
Oui, c'est ce que nous appelons les prodromes. Donc la femme, avant qu'il y ait survenu de convulsion, la femme vous dira qu'elle a de troubles de vision. Elle peut avoir une vision double, une photophobie, ou soit elle vous dit qu'elle a des acouphènes, qu'elle entend des bruits dans les oreilles. Une autre vous dira qu'elle a des céphalées occipitales. Chez d'autres encore, ce n'est pas ces signes-là, c'est une épigastralgie là, en bas. Alors quand une dame vous vient avec ces signes, si c'était une pré-éclampsie, qu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie, vous dites que là, c'est l'éclampsie qui s'annonce et vous prévenez ça en donnant du sulfate de magnésie. Chez des dames, quand elles ont ces prodromes, ces signes-là, qui ne reçoivent pas de sulfate de magnésie, elles vous viennent dans un tableau de coma ou dans un tableau tonico-clonique avec de fortes convulsions là. Et à ce moment-là, vous devez couper ça avec le diazépam et ou le phénobarbital. Ensuite, vous donnez le sulfate de magnésie. Et si elle était enceinte, vite évacuée. Cette grossesse-là, vous la couchez par césarienne et commencez à l'observer en soins intensifs. Quand vous faites une éclampsie comme ça, ça peut se compliquer. Et il y a plusieurs complications qui peuvent arriver puisque le cerveau n'est plus oxygéné.
Quelles sont les autres conséquences qu'une telle situation peut entraîner?
Alors, certaines autres peuvent faire même jusqu'à faire l'AVC, d'autres jusqu'à en mourir, puisque tu feras une hémorragie cérébrale. À force de convulser, le petit vaisseau peut se rompre et tu commences à saigner au niveau de la tête, une hémorragie cérébrale, faisant un AVC. Chez d'autres, elles meurent même comme ça.
Vous avez répondu partiellement à une question de Jérémy Moubiaï, qui s'intéressait à la prise en charge de l'éclampsie. Quelles peuvent être les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et sur le bébé?
Sur le bébé, là, c'est la mort fœtale intra-utérin. Si elle commence à convulser, dans les minutes qui suivent, vous enlevez le bébé, puis puisque comme la maman n'est pas suffisamment perfusée, ce qui fait que l'enfant aussi sera en hypoperfusion, il va souffrir jusqu'à mourir. Comme le cerveau, c'est l'organe noble, il n'est plus perfusé, c'est que l'enfant aussi, là, il n'est plus perfusé. Alors, il aura une souffrance fœtale jusqu'à ce que l'enfant peut mourir. Si vous l'enlevez à temps, vous faites une césarienne à temps, là, vous pouvez sauver l'enfant.
On peut bien voir que l'éclampsie a des conséquences très désastreuses sur le bébé. Et qu'en est-il de la mère?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Comme j'ai dit, elle peut faire un AVC. Le fait que le cerveau soit privé pendant longtemps d'oxygène, elle peut faire des délires, elle peut faire une rupture capsulaire du foie, elle peut faire... Il y a plusieurs conséquences qui peuvent arriver chez la maman. Donc elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie là, intracérébrale, être un poids pour la société. Donc elles peuvent même mourir.
Le bébé, pour le sauver, l'unique solution demeure
une césarienne
rapide.
Oui, une césarienne en urgence quand les convulsions commencent. Mais si la dame a déjà commencé à convulser il y a plus de 30 minutes et que la dame vous vient après en catastrophe, là, l'enfant a déjà souffert et est déjà parti. Là, vous pouvez même faire la césarienne juste pour sauvetage maternel et l'enfant sera déjà décédé.
Quand une femme a déjà fait une éclampsie, cela signifie-t-il qu'elle va encore en être victime pour les grossesses à venir?
Chez une femme qui a déjà fait une éclampsie, elle a vraiment un haut risque de refaire ça. Mais ce n'est pas pour toutes les grossesses. Dans les consultations prénatales, nous pouvons prévenir chez ces dames pareil. Quand elle vient comme ça, vous lui donnez de l'aspirine junior, question de prévenir, et vous faites une surveillance de sa tension artérielle. Quand il n'y a pas ces mesures, elle peut le refaire. Elle est vraiment à haut risque de refaire encore une pré-éclampsie ou une éclampsie. Donc elle peut le faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même après l'accouchement, elle peut refaire cette éclampsie-là. Lors des grossesses ultérieures, disons.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour éviter que les femmes fassent l'éclampsie pendant la grossesse ou après la grossesse, quelles sont les mesures préventives que vous préconisez?
Les mesures préventives que nous mettons en place, premièrement, c'est quand la dame a déjà fait une pré-éclampsie. Quand c'est sévère ou modéré, vous donnez directement le sulfate de magnésie. Quand vous le mettez en perfusion par 24 heures, ça couvre la dame, vous verrez que ça prévient les convulsions en fait. Donc la dame ne va pas convulser. Et pour vous traiter son hypertension là, et vous lui donnez de l'aspirine junior. Quand vous observez ça et vous faites une surveillance là avec expectative armée, chez cette dame-là, elle ne fera pas d'éclampsie. Mais lorsque vous lâchez ou lorsqu'elle n'a pas fait ses consultations prénatales, elle n'a pas été éduquée pour mieux suivre l'évolution de sa grossesse ou mieux la surveiller, là, elle peut être susceptible de le refaire.
Y a-t-il des femmes enceintes qui sont plus à risque par rapport à d'autres?
Oui, les femmes à risque, c'est les femmes qui peuvent faire une pré-éclampsie ou une hypertension artérielle s'y rajouter. Donc la femme qui était hypertendue avant la grossesse, elle peut le développer. Ou une femme qui a fait une pré-éclampsie ou chez certaines femmes avec obésité ou on peut dire ça, avec obésité, ils sont susceptibles à faire ça. Ou diabète gestationnel. Chez une femme qui a fait une diabète gestationnelle ou qui est diabétique, et c'est fort probable qu'elle fasse ça. Ce genre de grossesses, nous les surveillons dès le début.
Okay. Docteur Sungu, si nous prenons 100 femmes que vous suivez, il y en a combien, par exemple, qui pourraient développer une éclampsie?
Chez les femmes que nous suivons, par exemple, si nous prenons cette année 2021, depuis le début, j'ai déjà eu une dame seulement qui a fait la pré-éclampsie. Il y avait la non-observance du traitement qu'on donnait, le traitement anti-hypertenseur qu'on lui donnait, puisqu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie. Quand nous lui avons demandé de prendre le produit, de surveiller la tension, si elle pouvait le prendre à la maison, elle avait ces moyens-là, mais elle ne l'a pas fait. Finalement, on l'avait amenée dans un état tonico-clonique. Après, elle a fait même un AVC. Depuis 2021, janvier, il y a une dame, mais ce n'est pas très fréquent en ville ici. Ce n'est pas très fréquent puisque nous faisons des CPN. Mais les femmes qui nous viennent de milliers un peu réguliers, rurales, là, cela, c'est trop fréquent. Elles ne font pas de consultation prénatale.
Mais est-ce que cette femme, elle a pu garder son bébé?
Oui. Donc, quand elle est venue, elle venait dans les 30 minutes qui suivaient la première convulsion et nous avons fait une césarienne d'urgence. Et là, elle est en train de récupérer ses membres petit à petit. C'est au mois de février, mais là, elle essaie de marcher. Et vous voyez quand même le séquel d'AVC là.
C'est vraiment une très bonne nouvelle que cette femme, malgré l'éclampsie, ait pu récupérer son bébé. Vous venez aussi de dire, docteur, que les femmes rurales sont celles qui sont le plus susceptibles de développer une éclampsie parce qu'elles ne font pas le suivi prénatal comme il se doit. Quels moyens de sensibilisation mettez-vous en œuvre pour ces femmes-là?
D'ailleurs, c'est le gouvernement qui met les moyens. Le gouvernement met le moyen en jeu pour que le médecin vulgarise cela et fonde des CPN gratuitement, que le médecin aille même dans des milieux reculés afin de voir ces femmes. Tout ça, c'est le gouvernement qui doit le faire, mais nous, dans notre milieu, le gouvernement ne le fait pas encore. C'est que nous-mêmes, le médecin, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne sait pas le faire de lui-même. Ça, ce sont des structures qui viennent en appui à des centres de formation médicale pour vulgariser cela.
À votre avis, docteur, qu'est-ce qui doit donc être fait pour mener une bonne campagne de vulgarisation, de sensibilisation, afin d'éviter des situations qui conduisent à des drames comme l'éclampsie?
Pour éviter qu'on en arrive là, pour nous, on demande aux bienfaiteurs, d'abord premièrement au gouvernement congolais, aux africains, disons, de soutenir leurs structures sanitaires. Le gouvernement doit nous soutenir dans cette démarche-là. Et à part le gouvernement, le bienfaiteur, les ONG qui peuvent venir et soutenir, puisque les médecins sont toujours disponibles pour vulgariser, mais faute de moyens, on ne sait pas donner plus que ce que nous faisons.
Ok, pour terminer, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à toutes les femmes enceintes, mais aussi à leur entourage? Parce que je crois que l'entourage a aussi un rôle à jouer.
Oui, l'entourage a un rôle à jouer. Surtout quand une femme est enceinte pour la première fois ou pour la deuxième fois, quand elle vient souvent, ce genre de femmes-là, elles vous disent « Non, ma maman m'a dit ceci. Oh, telle qui avait eu une grossesse avant moi m'a dit ceci. » Alors, pour cet entourage-là, nous disons que quand une femme a une grossesse, il faut lui demander d'aller à l'hôpital d'abord, premièrement, pour qu'on confirme cette grossesse. Deuxièmement, qu'on fasse un calendrier de suivi de cette grossesse-là. Ça, c'est pour l'entourage. Ils doivent encourager nos femmes à venir dans des structures sanitaires.
Et à la femme enceinte?
Pour les femmes enceintes elles-mêmes, qu'elles viennent en consultation, c'est tout. Qu'elles viennent en consultation et qu'elles apprennent à prendre et à prélever l'attention, l'automésure, là, c'est une bonne chose. Quand elle se reconnaît hypertendue ou quand elle commence à développer l'hypertension au cours de la grossesse.
Ok, merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, Nani.
C'était notre entrevue avec le docteur Maurin Sungu, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Cinquantenaire et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est l'heure du carnet de santé avec nous.
Cette semaine, dans carnet de santé, infrastructure sanitaire en Afrique, un état des lieux préoccupant. Et le docteur Aminu Magashi Garba du Nigeria explique comment les infrastructures de santé publique peuvent être améliorées. Ensuite, que pensez-vous de la qualité des centres de santé dans votre communauté? Nous avons recueilli votre avis. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Les infrastructures sanitaires font partie des éléments essentiels pour assurer la bonne santé des populations. Celles-ci offrent, entre autres, la capacité de prévenir et de traiter les maladies et préparer les urgences sanitaires. Selon les experts, une couverture adéquate en infrastructures de santé comprend notamment des centres de santé et des équipements de qualité, un personnel qualifié, l'accès des données et une technologie à jour permettent la sécurité et une bonne expérience pour le patient. Un rapport de la Banque africaine de développement révèle que les infrastructures de santé sont inégalement réparties en Afrique subsaharienne et souvent de mauvaise qualité. Et seulement la moitié des centres de soins de santé primaires du continent ont accès à de l'eau potable, à un assainissement adéquat et ont des normes de sécurité appropriées. Partons tout de suite au Sénégal, où un drame dans un hôpital dans la ville de Tivoine a emporté la vie de 11 bébés, remettant en cause la qualité des infrastructures sanitaires dans le pays. C'est avec Claire Morin-Gibourg.
Une grande tragédie s'est produite ici à l'hôpital Mam Abdouaziz Si Dabak dans la ville de Tivaouane au Sénégal. 11 nouveau-nés sont morts dans un incendie provoquant douleur et incrédulité dans la localité.
C'est vers 21h qu'on a eu les premiers échos de l'incendie, mais il n'y avait aucun personnel de l'hôpital sur place. Les 3 personnes de garde étaient tous en bas. La première alerte est venue de quelqu'un qui était parti apporter le dîner à des malades. Il a dit qu'il y avait de la fumée, on le sentait tous, mais on ne savait pas d'où ça venait. C'est quand le feu a vraiment pris qu'ils sont parvenus à le localiser. Quand ils sont venus à la rescousse, il était trop tard.
Le maire de Tivaouane, Demba Diop, a déclaré qu'une enquête préliminaire avait révélé qu'un court-circuit avait déclenché l'incendie. Il a dit que tous les bébés à l'intérieur de la pièce ont été brûlés à un certain degré et qu'il n'y a aucun survivant parmi les bébés qui se trouvaient dans les incubateurs. Mamadou Mbaye se trouvait dans l'enceinte de l'hôpital.
J'ai couru, j'ai vu des femmes pleurer et crier. Je suis ensuite monté au deuxième étage et les sages-femmes étaient là. Elles criaient. Il faisait noir, il y avait beaucoup de fumée et il faisait extrêmement chaud.
Les hôpitaux ne soignent plus, n'assistent plus et n'ont plus de compassion pour les malades. De plus, dans les hôpitaux, le personnel soignant se doit d'être en rotation. Mais ici, le personnel se réunit dans la salle de pause pour faire du thé, regarder la télévision et se concentrer sur WhatsApp. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe.
La tragédie de Tivaouane est la dernière d'une série qui a mis en lumière les problèmes des hôpitaux et du système de santé sénégalais. Le mois dernier, une femme enceinte est décédée après que ses appels pour une césarienne ont été rejetés dans un hôpital public de la ville de Louga, dans le nord-ouest du pays.
C'est de la négligence totale. Si les personnes de garde étaient à leur poste, on aurait pu éviter ce drame. Donc la négligence est réelle. Dans cet hôpital, il y a un problème d'accueil. Et nous, les usagers, on a vécu pire ici. Il est temps que la gestion de l'hôpital soit revue. Tout le monde s'en plaint, surtout nous les femmes qui donnons la vie.
Le président Macky Sall a limogé le ministre de la Santé, mais pour de nombreux Sénégalais, cela ne suffit pas. Les critiques affirment que des actions concrètes sont nécessaires pour combler les lacunes de l'infrastructure nationale de santé au Sénégal, ainsi que dans d'autres pays africains.
Le docteur Aminu Magashi Garba est coordinateur d'Africa Health Budget Network, un réseau d'organisations et d'individus utilisant le plaidoyer budgétaire pour améliorer la prestation des services de santé en Afrique. Il nous en dit plus sur les défis des infrastructures de santé dans le continent et partage certaines solutions.
Les défis sont des deux côtés. Nous devons mettre à niveau et nous devons également maintenir. La maintenance est l'un des plus grands défis au Nigeria. Vous pourriez voir le gouvernement débourser des milliards de dollars pour équiper un hôpital, puis au bout d'un an ou deux, la structure s'effondre ou les équipements deviennent obsolètes ou ne fonctionnent pas du tout, car lorsque vous avez un établissement avec tous les équipements sophistiqués, vous devez établir l'électricité pour entretenir ces équipements. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de maintenance. La mise à niveau est également très importante. Certains équipements sont destinés à la prévention ou au diagnostic, par exemple, et cela pourrait nous coûter environ 1 million de dollars américains. Mais après un certain temps, cette machine aurait besoin d'être mise à niveau. La technologie des machines est obsolète. Vous n'avez pas à déplacer l'équipement, mais vous devez mettre à niveau l'équipement et parfois l'argent n'est pas disponible ou la personne qui a acheté la machine a déjà quitté ses fonctions. Le nouveau responsable du gouvernement dit « Ce n'est pas ma responsabilité parce que je ne l'ai pas mise là ». Le gouvernement ne devrait pas seulement fournir le financement, mais il devrait également créer un environnement propice au développement du secteur privé. Cela inclut les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales. Nous devrions également leur permettre d'essayer de s'associer à la communauté en tant que partenariat public-privé, et le gouvernement peut assurer la réglementation et la surveillance. Il y a beaucoup de lois en ce moment au Nigeria. Nous avons ce que nous appelons le projet de loi sur la Nigeria Infrastructure Health Development Bank. Pour la première fois dans l'histoire du Nigeria, il y aura une banque qui financera le développement des infrastructures sanitaires. L'un des plus grands défis au sein des établissements de santé est la maintenance. Et quand on pense à la maintenance, ce sont les agents de santé, les ressources humaines au sein de l'établissement qui doivent entretenir le matériel. Si vous arrivez dans un établissement sanitaire et que ce n'est pas hygiénique, ou qu'il y a un mauvais système d'égout, ou qu'il y a des problèmes au sein de la maternité, alors, avant de regarder le gouvernement, nous devons certainement regarder les agents de santé et les professionnels qui ont un rôle à jouer dans le plaidoyer, la sensibilisation, l'engagement significatif du gouvernement pour s'assurer que nous entretenons toutes nos infrastructures et les améliorons également au niveau qui fournira des services de santé de qualité aux Nigériens.
Que pensez-vous de la qualité et de la sécurité des établissements de santé dans votre communauté? Que faut-il faire pour améliorer les infrastructures et services de santé? Voici quelques réactions recueillies à Nairobi, au Kenya.
Je viens de la région de Nairobi-Matare et bien sûr nos services de santé y sont très médiocres. Le drainage, les toilettes, la décharge, tant de choses se passent et nous ne recevons pas d'aide.
En ce qui concerne les établissements de santé autour de ma région, ils ont été améliorés selon ce que j'ai vu en raison de la propreté qui a été évoquée par le gouvernement. Et parmi les améliorations à apporter, il faut accroître le nombre de médecins, car tant de gens vont à l'hôpital en même temps. Ils doivent donc augmenter le nombre de médecins et d'infirmières qui se trouvent dans notre hôpital.
Les défis que je vois avec nos établissements de santé ici sont le manque d'équipement, de sorte que lorsque les gens souffrent de diverses maladies et affections, ils doivent se rendre ailleurs pour se faire soigner. Les améliorations que je voudrais voir ici seront au moins au niveau du sous-comté pour avoir une installation qui peut réellement gérer certaines de ces conditions et avoir des équipements qui peuvent aider les gens ici afin qu'ils n'aient pas à aller jusqu'en ville. All the way to the cities to have that happen.
Les professionnels de la santé éthiopiens dans le nord de la Californie, en collaboration avec la communauté éthiopienne de la région, ont créé le groupe Helpers in Northern California, qui vise, entre autres, à restaurer les centres de santé dans les régions d'Éthiopie touchées par la guerre. Pour en savoir davantage sur l'initiative, nous nous sommes entretenus avec le docteur Kidis Yimam, spécialiste de la greffe du foie en Californie.
Les soins de santé sont un besoin immédiat. Il y a des mères, des enfants qui ont besoin de médicaments. Il y a de nombreuses personnes âgées atteintes de maladies chroniques qui auraient besoin de continuer à prendre des médicaments. Donc, qu'il y ait la guerre ou pas, il faut toujours fournir des soins de santé. Et malheureusement, à cause de la guerre, ces régions ont presque tout perdu. Cela comprenait environ 520 centres de santé municipaux qui ont été détruits à cause de la guerre. Nous avons collaboré avec le ministère de la Santé. Les besoins sont énormes dans la région d'Amara et dans le nord de l'Éthiopie, l'une des régions ayant subi des dommages importants. Nous avons pris la responsabilité de reconstruire et de restaurer 4 centres de santé. C'est 4 sur 525. C'est très peu par rapport à ce qui devrait être fait.
Nous voici au terme de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Nous avions reçu le docteur Maurice Lougou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique Shukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a expliqué, entre autres, quelles sont les répercussions de la crise des clampsies sur la maman et le bébé, la prise en charge, mais aussi et surtout des mesures préventives contre les clampsies.
Dans la deuxième partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Minor Moudou. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est